Commentaire sur Philippiens, document d'étude numéro F050. C'est l'une des lettres de prison écrites au cours de la période où Paul était en prison, à Rome, vers l'an 61 ou 62 de notre ère. Elle contient un message théologique à l'église de Philippe. Introduction. Cette lettre cordiale et affectueuse a été écrite par Paul à l'église de Philippe en Macédoine. Il s'agissait de la première église établie par l'apôtre sur le sol européen. Voir Actes 16, versets 11 à 15. Il y a exercé son ministère, pense-t-on, lors de son deuxième voyage missionnaire. Les relations qu'il a entretenues avec eux pendant des années semblent bonnes. Il faut aussi comprendre que de nombreuses autres églises ont été établies en Europe par les autres apôtres. André a fondé l'église en Thrace avec Pierre, travaillant à Parthie, et depuis Antioche, en collaboration et en conjonction avec André en Thrace et en Scythie. Comparez le document d'étude de l'établissement de l'église sous les 70, numéro 122D. Paul était à ce moment-là en prison, en attendant son procès, voir le chapitre 1, versets 12 à 26. Certains éprouvent des difficultés à déterminer la date de rédaction de la lettre. Bullinger pense qu'elle a été écrite de Rome vers l'an 62 de notre ère, vers la fin de son emprisonnement, voire ci-après dans ce document. La plupart des chercheurs la situent entre 61 et 63 de notre ère. La situation reflète celle de la fin du livre des Actes et fait référence à la garde prétorienne et à la maison de César. Certains érudits ont même placé la lettre beaucoup plus tôt, à Césarée ou Éphèse, au tout début de la carrière de Paul. Ce fut le moment du retour d'Épaphrodite, voir le chapitre 2, versets 25 à 29. Il avait été envoyé par l'église de Philippe avec un cadeau pour Paul, voir le chapitre 4, verset 18. Paul les a ensuite remerciés et leur a donné un compte-rendu de sa propre situation et de son état d'esprit et leur a envoyé des instructions précises. On voit clairement dans la lettre que l'Esprit Saint réconforte Paul, alors même qu'il était en prison et en danger de mort. Voir le chapitre 2, verset 2, chapitre 3, verset 8 à 14, chapitre 4, verset 11 à 13. Le ministère de Paul à Philippe a marqué l'entrée de Paul en Macédoine. Cette arrivée est le résultat d'une vision qu'il a eue dans la ville de Troas, juste de l'autre côté de l'angle nord-est de la mer Égée, en face de la ville portuaire de Néapolis et de sa proche voisine Philippe. Voir Acte 16, verset 8 à 12. Plus tard, Paul a brièvement visité la ville lors de son troisième voyage missionnaire. Voir chapitre 20, verset 6. Paul a établi la foi en Christ dans les personnes qui allaient former le noyau de la vigoureuse congrégation de la ville. Parmi eux, Lydia, une femme d'affaires, qui a ouvert sa maison à Paul et à ses collègues. Voir chapitre 16, versets 13 à 15. Il en était de même pour le geôlier philippien qui s'est converti sous le ministère de Paul après qu'un tremblement de terre ait miraculeusement ouvert la prison. Voir le chapitre 16, versets 22 à 34. Des quatre épîtres de prison, entre guillemets, Paul a probablement écrit Philippiens en dernier, vers la fin de son emprisonnement romain en l'an 62. Paul a envoyé les trois autres épîtres de prison, Éphésiens, Colossiens et Philémon, par la main de Tychique, car leurs destinations étaient proches les unes des autres. Cependant, la lettre aux Philippiens devait être livrée par Épaphrodite, qui était venu voir Paul à Rome, amenant avec lui l'aide financière de l'église de Philippe. Voir Philippiens, chapitre 2, verset 25, chapitre 4, verset 18. Mais pendant son séjour à Rome, Épaphrodite est tombé malade, ce qui a retardé son retour chez lui, et par conséquent, la livraison de la lettre. Voir le chapitre 2, verset 26 à 27. Il y a eu une crise de doctrine en Galatie et à Colosse, mais pas à Philippe. Les frères de cette ville lui avaient envoyé un soutien financier, d'où la différence de ton. Les croyants de Philippe ont offert à Paul un soutien matériel pour son ministère, plus que toute autre église. Comparer 2 Corinthiens 8, verset 11, se référer aussi à Philippiens 4, verset 15 à 18. Ils ont effectivement fourni la dîme, voire le document numéro 161, même s'il y avait beaucoup moins de juifs à cet endroit. Paul a exercé son ministère à Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire, en passant environ 3 mois dans la ville. L'apôtre Paul n'a pas écrit aux Philippiens pour répondre à une crise, comme il l'a fait avec les Éphésiens, les Galates et les Colossiens. Paul a plutôt écrit pour exprimer son appréciation et son affection pour les croyants philippiens. L'affection de Paul pour ces personnes est claire tout au long de la lettre, car il les a encouragés à vivre leur foi dans la joie et l'unité. Voir le chapitre 1, versets 3 à 5, versets 25 à 26, chapitre 4, verset 1. Se référer également à l'URL suivant dans ce document d'étude. Le binitarisme. Le texte aborde un certain nombre de questions théologiques. Le texte du chapitre 2 traite de la nature de Christ. Il s'agit d'une explication non explicite qui vise à réfuter le binitarisme d'Attis, Mitra, à Rome et d'Adonis chez les Grecs influencés par le système Baal du Moyen-Orient et en Macédoine et en Thrace. Le but n'est jamais discuté par les binitaires et les trinitaires, voir le document numéro 076, ni par les dithéistes, voir le document numéro 076b. Le chapitre 2, versets 5 à 8, traite de la préexistence de Christ, voir le document numéro 243. Voyons maintenant la résurrection. Dans cette lettre, au chapitre 3, verset 11, Paul déclare que nous ne savons pas dans quelle résurrection nous allons être placés. Il espère pouvoir participer à l'ex-anastasine, aux résurrections extérieures, qui est la première résurrection au retour du Messie. Il semble utiliser ce terme parce qu'on nous extrait de la création humaine à ce moment-là pour que nous soyons transformés en êtres d'esprit, alors que la deuxième résurrection de l'armée humaine se situe à la fin du millénaire, 1000 ans plus tard, et celle-ci est une résurrection à une forme physique, comparée à Apocalypse 20, verset 7 et suivant, voire aussi ci-après dans ce document d'étude. Aperçu du livre Philippiens par E.W. Billinger. La structure dans son ensemble. Philippiens 1, versets 1 à 2, épistolaire et salutation, que la grâce leur soit donnée. Philippiens 1, versets 3 à 26, la sollicitude de Paul pour les Philippiens. Philippiens 1, verset 27 jusqu'au chapitre 2, verset 18, exhortation et exemple de Christ. Philippiens 2, verset 19 à 24, l'exemple de Timothée. Philippiens 2, verset 25 à 30, l'exemple d'Épaphrodite. Philippiens 3, verset 1 à 21 jusqu'au chapitre 4, verset 1 à 9, exhortation et exemple de Paul. Philippiens 4, verset 10 à 20, la sollicitude des Philippiens pour Paul. Philippiens 4, verset 21 à 23, épistolaire et la doxologie, que la grâce leur soit donnée. Voyons maintenant les notes d'introduction. Par E.W. Billinger. Remarque 1. La première visite de l'apôtre dans la ville de Philippe, probablement vers l'an 52 à 53 après Jésus-Christ, voire l'annexe 180, est consignée dans Actes chapitre 16. Il avait pour compagnons Silas et Timothée, et l'utilisation du pronom personnel dans ce chapitre indique qu'un quatrième compagnon de travail, d'œuvre, était avec lui. Probablement Luc, le médecin bien-aimé. Bien que nous n'ayons pas de détails sur les visites ultérieures, il est presque certain que Paul a été 2 fois à Philippe par la suite, voir Acte 20, verset 1, Acte 20, verset 6. Remarque 2. Nous en déduisons que peu de Juifs vivaient à Philippe, car il n'y avait aucune indication d'obstruction de leur part, et il n'y avait pas de synagogue à cet endroit, à moins que, en effet, le lieu de prière au bord de la rivière n'en désigne un. Les croyants avaient conservé la ferveur de leur premier amour et avaient une foi de plus pourvue à ses besoins. La gratitude de l'apôtre se manifeste à maintes reprises et il honore grandement ses frères bien-aimés et tant désirés, Philippiens, en les désignant ma joie et ma couronne. Voyons maintenant la note introductive numéro 3. Parmi les épîtres de Paul, aucune n'a un caractère plus élevé ni n'est plus animé pour les croyants que celle-ci. On ne peut non plus y ajouter un cadre aussi bien défini, comme on le verra dans la structure complète que nous avons citée ci-dessus dans ce document. Écrite de Rome vers la fin de son emprisonnement, Probablement, en l'an 62 après Jésus-Christ, la position de l'apôtre était alors celle de l'attente, car il était maintenant proche du jour où sa cause serait entendue devant le tribunal auquel il avait fait appel. Et cela nécessitait très probablement une condition d'emprisonnement plus rigide que lorsqu'il habitait, comme au début, dans sa propre maison de location. Mais cela, au lieu de l'entraver, avait même favorisé la prédication de Christ. D'où le ton de réjouissance de l'Épître. Comme des filaments d'or, la joie et ses expressions apparentées se répandent dans toute l'Épître aux Philippiens, comme l'est la grâce dans l'Épître aux Éphésiens. Note d'introduction 4. La ville de Philippe, une colonie romaine, était située à environ 8 miles, environ 13 km, à l'intérieur des terres de son port, Néapolis, qui est le Kavala moderne. N'étant pas un centre commercial, cela peut expliquer la rareté des Juifs parmi ses habitants. Philippe n'existe plus, car bien que le hameau turc le plus proche porte l'ancien nom sous une forme corrompue, il n'est pas à l'emplacement de l'ancienne ville. Fin de citation de l'ouvrage de Bullinger. Objet des chapitres. Commentaire du chapitre 1. Il est évident qu'il commence par saluer les frères de Philippe au nom de Timothée et de lui-même. Il discute ensuite de la division dans la prison de ceux qui sont sincères et de bonne volonté, et de ceux qui ne le sont pas. La garde prétorienne semble être prise par sa sincérité dans l'emprisonnement pour la foi. Les Philippiens avaient envoyé des fonds pour le soutenir pendant son séjour en prison. Il semble penser que s'il devait partir, il serait réuni avec Christ, mais au chapitre 3, il note qu'il espère participer à l'ex-anastasine ou la résurrection extérieure qui se produit au retour de Christ, qui est loin dans l'avenir. Voir donc ci-dessus et ci-dessous dans ce document. Nous allons lire Philippiens dans la version Louis II, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par un esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu tenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Nous voyons ici que Paul leur a enjoint de subir des persécutions pour Christ, comme Paul lui-même en subissait. Au chapitre 2, Paul poursuit en traitant de la nature de Christ et de la façon dont Christ a renoncé à la forme d'Élohim dans laquelle il était en tant qu'être spirituel. Étant sous la forme ou morphée en grec d'Élohim, ou de Théoi, entre parenthèses en tant que Dieu, dont il y avait plusieurs, mais un seul véritable Dieu, le Père, voir 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6, Christ ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir, entre parenthèses, pas selon le rendu de la version King James de la Bible. Christ s'est alors vidé, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il a abandonné l'esprit en tant qu'un Élohim, comme un fils de Dieu, comparé Deutéronome 32, versets 8 et suivants, dans la version RSV de la Bible, et la Septante et les manuscrits de la Mère Morte. Ésaïe 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Et Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9, et aussi Jean 1, verset 1 à 3, verset 18, Colossiens 1, verset 15. Voir aussi les versets 2, voir aussi les versets du chapitre 2, verset 5 à 8. Comparer pour le verset 8, Matthieu 26, verset 13, Jean 10, verset 18, Romains 5, verset 19, Hébreux 5, verset 8, Hébreux 12, verset 2. Christ s'est humilié et est devenu un humain et a subi la mort sur le poteau, ou en grec on dit storos, pas un crucifix. C'est pour cette raison que Dieu l'a hautement élevé au-dessus des autres camarades Elohim ou fils de Dieu. Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, Job 38, verset 4 à 7. Comme nous l'avons vu, prophétisé par David, dans Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9. Comparez aussi les versets du chapitre 2, verset 5 à 9. Il doit maintenant être reconnu comme Seigneur par tous, tant par les esprits de l'armée loyale que de l'armée déchue et par tous les humains, voir les versets 10 à 11. Et ce, à la gloire de Dieu le Père. Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9, montre qu'il y a deux dieux. Il y a un supérieur et un subordonné, et le subordonné a de nombreux camarades. Philippiens 2, verset 5 à 7 est mal traduit dans la version King James de la Bible, et est souvent utilisé comme texte de preuve trinitaire. Le texte fait référence à la rébellion de l'armée, et à la fidélité, et à l'abnégation de Christ dans les cieux. Le texte dit, nous lisons dans Philippiens 2, verset 5 à 7, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Version Louis II. Ce texte n'est pas difficile à comprendre. C'est un langage assez simple. Il établit ceci, 1. Christ n'est pas égal à Dieu et n'a pas cherché à saisir l'égalité avec Dieu. Voir aussi Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28 qui montrent tous deux que Satan l'a fait. 2. Christ était sous la forme d'Élohim en tant qu'être spirituel. 3. Christ s'est vidé, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il a abandonné sa forme et son entité et est né en tant qu'homme. Ce texte implique positivement la préexistence. Même les trinitaires ont dû brouiller la traduction pour essayer de le rendre égal à Dieu. Mais même eux n'essayent pas de nier sa préexistence. Cette prémisse est la raison pour laquelle le trinitarisme a eu plus de succès que l'unitarisme radical en tant que tromperie, entre parenthèses à l'exception de l'islam hadithique. Satan a été chassé du ciel pour le péché de rébellion qui, parce qu'il cherche à établir une volonté égale ou supérieure à Dieu le Père, est une idolâtrie ou à sorcellerie, comme le dit 1 Samuel 15, verset 23. Satan a cherché à se rendre égal au Très-Haut ou à Dieu le Père. Christ, par contre, n'a pas cherché à se rendre égal à Dieu, subordonnant sa volonté. Voir Jean 4, verset 34, Philippiens 2, verset 6 à 9. Ainsi, Dieu a exalté Christ par le fait que Christ lui a obéi et que Christ n'a pas cherché à être égal à lui, ni à le détrôner, comme un tiers des Elohim et Béné Elohim avaient en effet cherché à le faire. Dans Luc 10, verset 18, Christ a dit qu'il a vu Satan tomber du ciel, comme un éclair. Satan a séduit un tiers des anges ou des étoiles du ciel, voir Apocalypse 12, verset 4. Ces anges ont été chassés avec Satan sur la terre, voir Apocalypse 12, verset 9. Cette désolation est symbolisée par la désolation mentionnée dans Apocalypse 8, verset 10, où le troisième ange démontre à nouveau la désolation causée par la chute d'une étoile de l'armée, désolant un tiers de la création. Satan a essayé de tenter Christ de plusieurs façons. Tout d'abord, Satan a fait référence à Christ comme étant le Fils de Dieu dans Matthieu 4, verset 3, Matthieu 4, verset 6 et Luc 4, verset 3. Les démons ont également fait référence à Christ comme étant le Fils de Dieu dans Matthieu 8, verset 29, Luc 4, verset 41 et Marc 3, verset 11. Satan a essayé d'inciter Christ à prouver sa position de Fils de Dieu par une démonstration de puissance, en ce sens que Dieu avait promis qu'il donnerait à ses anges la charge de s'occuper de lui dans le psaume 91, verset 11 à 12. Satan a omis de te garder dans toutes tes voies et il a ajouté à tout moment. Ainsi, en dénaturant l'Écriture, Satan a essayé d'ôter la vie de Christ. Christ n'a à aucun moment corrigé Satan ou les démons sous prétexte qu'il était Dieu et non le Fils de Dieu. En effet, aucun démon n'a essayé d'affirmer la tromperie que Christ était Dieu suprême, sauf après sa mort, afin d'établir une doctrine qui disait que Christ était Dieu de la même manière que Dieu le Père était Dieu, et ainsi d'accomplir après sa mort une supercherie que Christ aurait réfutée dans la vie. Dans chacune des tentations, le but était de saper l'obéissance de Christ à Dieu, et en fait de briser l'Écriture. Satan a essayé de faire en sorte que Christ l'adore. Satan a promis à Christ le contrôle de la planète à ce moment-là, si Christ l'adorait. Christ n'a pas contesté son droit de transférer son contrôle de la planète, ni même le fait qu'il en était le dirigeant. Christ a plutôt répondu, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Christ n'a pas dit à Satan que celui-ci devait adorer Christ, mais Christ l'a plutôt renvoyé à la loi. Christ n'a jamais, à aucun moment de son ministère, prétendu être Dieu. Christ a dit qu'il était le Fils de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a été mis à l'épreuve, comme indiqué dans Matthieu 27, verset 43, où nous lisons « Il a confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». C'était ici que Christ a crié afin d'accomplir les Écritures dans Psaume 22, verset 1 « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Or, c'est clair que Christ ne se considérait pas être Dieu. Il est absurde de suggérer qu'il faisait partie de l'entité à laquelle il faisait appel, sous une forme égale dont une partie de celle-ci était impassible. Plus importante encore, c'est la doctrine de l'Antichrist, énoncée dans 1 Jean 4, versets 1 à 2. Le texte ancien correct pour 1 Jean 4, versets 1 à 2 est reconstruit à partir d'Irénée, chapitre 16, verset 8, voire l'ouvrage « Ante Nicene Fathers », Les Pères d'avant Nicée, volume 1, note page 443. Citation. Connaissez par ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui sépare Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais est de l'Antichrist. Voyons maintenant le chapitre 2 de Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez, hein, qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Il parle ensuite de leur envoyer Timothée et Épaphrodite, qui étaient malades au point de mourir, mais Dieu l'a épargné. Paul parle de lui comme étant versé en offrande de libation, comme lors des sacrifices du temple. Paul poursuit au chapitre 3 pour les avertir de l'existence des chiens, entre parenthèses des sodomites, et des méchants. Il est tenu ici au verset 2 pour se référer à la fête de la circoncision à la synagogue et fait la distinction de l'Église comme étant la vraie circoncision, entre parenthèses en tant que corps de Christ qui adore Dieu en esprit. Au verset 6, il considère qu'il était irréprochable quant à la loi. C'était une arrogance de sa part et qui est contraire aux lois de Dieu. Car tous les hommes étaient pécheurs sous la loi, et ceux qui disent ne pas l'être sont des menteurs. Voir 1 Jean 1, verset 8. Nous perdons tout pour Christ. Dans ce chapitre, il poursuit jusqu'au verset 11 le but de l'ex-anastasie ou résurrection extérieure de la première résurrection. Voir le document numéro 143a. Paul ne mentionne pas la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc. Voir le document numéro 143b. Car ce n'était pas le but attendu des églises de Dieu. Le chapitre 20 de l'Apocalypse, qui traite du moment et des détails des deux résurrections, n'avait pas encore été donné à l'apôtre Jean. L'esprit est le moyen, le mécanisme, par lequel nous adorons Dieu, tel que c'est indiqué dans Philippiens 3, verset 3. Par conséquent, l'esprit ne peut pas être Dieu en tant qu'objet d'adoration et donc égal à Dieu le Père. Mais c'est une force qui donne du pouvoir à Christ. Christ est donc un Père éternel, voir Ésaïe 9, verset 6, dont il existe plusieurs pères dans le ciel et sur la terre, voir Éphésiens 3, verset 15. Christ devient Père éternel par délégation. Toutes ses paternités ou familles portent le nom de Dieu le Père, raison pour laquelle nous nous inclinons devant Dieu le Père en l'adorant.
Éphésiens 3, verset 14 à 15.
La revendication est également faite par les binitaires, les trinitaires, que Christ était consubstantiel à Dieu, de telle manière qu'il était coégal et coéternel avec Dieu. Contrairement à Philippiens 2, verset 6 et 1 Timothée 6, verset 16, qui montrent que seul Dieu est immortel. L'éternité, ou plus exactement, la vie aionion de Christ, dans 1 Jean 1, verset 2, et celle de tous les êtres, y compris Christ, découle de cette entité. Christ et les élus sont tous deux de la même origine, voir Hébreux 2, verset 11 dans la version RSV, tirant leur vie et leur éternité de l'obéissance conditionnelle au Père, voir Jean 5, verset 19 à 30, qui nous a tous créés, voir Malachie 2, verset 10 à 15. De même que le Père a la vie en lui-même, de même, le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, Jean 5, verset 26. Et nous sommes cohéritiers étant ordonnés pour avoir la vie en nous par l'autorité de Dieu. Ésaïe 9, verset 6 utilise le mot « elle », voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 410. Et « elle » peut signifier une personne puissante ou Dieu et se référer à n'importe qui de l'armée ou de l'homme. La Septante d'Ésaïe 9, verset 6 appelle Christ l'ange du grand conseil. Nous parlons donc clairement de l'ange de la présence dans ce texte. Les trinitaires ne se réfèrent jamais à un texte qui prouve le contraire de ce qu'ils disent, à moins de le revendiquer comme un texte de preuve et d'affirmer que cela signifie le contraire de ce qu'il dit réellement, comme dans Philippiens 2, versets 5 à 8, où Christ n'a pas cherché à saisir l'égalité avec Dieu, ce qui était le péché de Satan. Le grec dit « megales boules angelos ». Le terme « angelos » est toujours traduit par « ange » dans le Nouveau Testament. Cela signifie « messager », mais les trinitaires ne le traduisent comme « messager » uniquement lorsqu'il fait référence à Christ. L'hébreu d'Ésaïe 9, verset 6, dit « puissant elle ». Le mot « elle » peut être utilisé pour désigner l'armée angélique et l'armée humaine. La Septante a utilisé « angelos » pour traduire « puissant elle ». Entre parenthèses, dans les mots dictionnaire hébreu de Strong, donc « Strong Hebrew Dictionary », 3289, conseiller, le SHD 410L et SHD 1368, puissant. Les mots ne font pas référence à l'unique véritable Dieu Eloah, mais celui-ci s'appelle Pélé, voir donc le dictionnaire hébreu de Strong numéro 6382. Le grec a été choisi pour refléter le fait que ce texte fait référence au messager de Dieu. Et il est identifié dans Psaume 45, verset 6 à 7, et Hébreux 1, verset 8 à 9 l'a identifié comme étant Christ, qui est l'Élohim subordonné d'Israël. Psaume 8, verset 4, verset 5, verset 6 est également cité dans Hébreux 2, verset 6 à 8 comme « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites ? Car tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, aux dieux, entre parenthèses, ou Élohim. » Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Fin de citation. Le texte ici, du verset 4, fait référence à l'homme mortel Enosh et Adam en hébreu. Nous voyons dans Hébreux 2, verset 9, que c'est pour la souffrance de la mort qu'il a été abaissé à un niveau inférieur par rapport à eux pour un peu de temps. Bullinger note la lecture « pour un peu de temps » dans les notes du texte. Cela s'accorde aux Philippiens 2, versets 5 à 8, où nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, a arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ainsi, Christ n'a pas essayé de saisir l'égalité avec Dieu, ou de se rebeller. Mais il est devenu humain et s'est humilié jusqu'à la mort. Il est devenu un fils de Dieu en puissance par sa résurrection d'entre les morts, selon Romains 1, verset 4, comme le voyons dans Philippiens 2, verset 9, où nous lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Version 8 secondes. Or, ce mot rendu ange dans le psaume 8 et dans Hébreu, et comme nous le voyons en hébreu, Elohim, et signifie Dieu au pluriel. Il a été traduit par Angelos, pour messager, dans la Septante. Et également à partir de cela, dans le texte grec d'Hébreu, et a été conservé dans ce sens dans la Vulgate, le Syriaque et l'Arabe. Cela a été traduit par ange en anglais et en français. La raison pour laquelle cela a été retenu dans ce sens est qu'il convenait aux traducteurs hébreux originaux de le rendre messager, parce que cela portait sur la pluralité des fils de Dieu en tant que Elohim plutôt que Eloah. Les trinitaires ont suivi ce raisonnement afin de l'avoir comme ange et d'omettre le sens pour un peu de temps. Et aussi dans ce sens, dans le syriaque et l'arabe ultérieur. La raison semble être qu'aucun d'entre eux n'a voulu reconnaître que les Elohim étaient un ordre étendu d'être. Cependant, le texte est définitivement Elohim dans l'original hébreu, et Bullinger en prend note dans la note du verset de la Bible « The Companion Bible ». Les prêtres savaient que le Fils de l'homme était un Elohim qui est devenu Fils de Dieu en tant que Monogenes Theos. Comparé Marshall's Greek English Interlinear, RSV, Revised Standard Version. Les notes de la Bible, The Companion Bible, dans les textes, examinent ces aspects. Elles font référence au fait qu'ils seront égales aux Elohim. Et comme cela n'a pas été dit en grec, mais en araméen, nous obtenons le texte comme Elohi, puis rendu comme ange. Les fils de Dieu étaient tous des Elohim, comme le montrent les textes de l'Ancien Testament. Ces Elohim étaient compris comme des angelos, ou messagers, et traduits comme des anges dans les textes anglais et français et autres. Cependant, les prêtres du temple n'avaient pas été entravés par les traditions des païens romains, se faisant passer pour des chrétiens. Depuis quelques siècles à cette époque-là. Et ils en comprenaient donc parfaitement les implications. Le terme « fils de l'homme », entre parenthèses, pas d'article, utilisé dans le texte de Psaume 8, est utilisé trois fois avant ce texte. Dans Nombre 23, verset 19, Job 25, verset 6, Job 35, verset 8. C'est utilisé 111 fois au singulier dans l'Ancien Testament et 39 fois au pluriel. Les autres occurrences dans les psaumes, psaume 49, verset 2, psaume 144, verset 3, sont un mot différent. Ici, au chapitre 8, verset 4, le titre se rapporte à la domination sur la terre et est utilisé dans ce sens dans le texte d'Hébreu, le rapportant au Messie. Nous poursuivons par le chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notez ici que Paul condamne les gloutons et déclare que notre communauté est au ciel, et que c'est du ciel que nous attendons un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Les gnostiques, adorateurs de Baal, qui enseignent que le ciel est la demeure des morts, interprètent mal le texte et ignorent le mot « du » qui signifie que Christ viendra du ciel sur la terre, et que nos corps seront transformés pour être comme son corps, glorifié dans la puissance de l'Esprit-Saint, en tant que des co-héritiers avec Christ. Se référer à Romains 8, verset 23, 1 Corinthiens 15, verset 47 à 57, 2 Corinthiens 5, verset 1 à 5, Colossiens 3, verset 1 à 4. Le chapitre 4 continue ensuite avec les derniers appels de Paul. Au verset 1, il fait référence à sa joie et à sa couronne, comparé 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. Au verset 2, Paul supplie Évodie et Saint-Tiché de réconcilier leurs désaccords. Il se réfère à leurs travaux, entre parenthèses, œuvres précédentes, avec lui et Clément, et déclare que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Le véritable fidèle collègue est une référence à un chef de l'église de Philippe, probablement Syxigus, qui signifie fidèle, collègue en grec. Il supplie les Philippiens de se réjouir toujours dans le Seigneur et de faire connaître aux hommes leur patience et tolérance. Il les exhorte à faire leur requête à Dieu, et sa paix, au-delà de toute compréhension, gardera leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Ces dernières requêtes au verset 8 les encouragent dans leur attitude à se concentrer sur ce qui est véritable et honorable. À partir du verset 10, Paul déclare qu'il peut survivre dans l'abondance et la faim, et comment se comporter dans l'abondance et dans la disette. Cependant, au verset 14, Paul reconnaît que les Philippiens étaient la seule église qui le soutenait lorsqu'il a quitté la Macédoine. Ils lui ont même envoyé du soutien à Thessalonique après son départ de Philippe, voir acte 17, verset 1. Ils lui ont de nouveau envoyé des dons à Rome par Épaphrodite pendant son emprisonnement. Paul semble être capable de communiquer avec les frères de Rome et à des gens de la foi dans la maison de César. C'était Néron à ce moment-là. Lisons maintenant le chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voir aussi les dépositions des croyances de la foi chrétienne à 1, le Dieu que nous adorons, numéro 002, psaume 8, numéro 014, le binitarisme et le trinitarisme, numéro 076, des formations par les binitaires et les trinitaires de la théologie de la divinité des premiers temps, numéro 127b, et aussi le message de sabbat du 18 janvier 2014. Note de Bullinger sur Philippiens, disponible en anglais uniquement ci-après dans ce document. Fin de la lecture du document d'étude commentaire sur Philippiens F050.